Aujourd'hui, on se lance dans l'histoire vraiment fascinante d'une institution ruthénoise qui a traversé les siècles.
Une plongée qui sort un peu de l'ordinaire, oui.
Exactement. Ce qui rend cette exploration si particulière, c'est qu'elle s'appuie presque entièrement sur un support visuel qu'on a un peu tendance à oublier de nos jours.
Les anciennes cartes postales.
Voilà, les vieilles cartes postales. Et on doit préciser d'emblée que notre analyse se base exclusivement sur un article extrêmement fouillé.
Un travail de recherche impressionnant, oui.
Absolument. L'article s'intitule « Les 150 ans de l'ensemble scolaire Sainte-Geneviève-Saint-Joseph » et il a été écrit par Pierre Dumont.
C'est important de le mentionner, tout comme le fait que ce texte est la suite directe de son travail paru dans le bulletin numéro 42.
Tout à fait. Et pour que ces petits bouts de carton prennent vie sous nos yeux, il faut vraiment souligner la mise en page. Elle a été pensée par Guy Mazard.
Le rédacteur en chef et concepteur de la maquette de ce bulletin, oui.
C'est ça. Sans cette approche visuelle, on perdrait une grande partie de l'impact de ce récit. Bon, décortiquons tout ça.
C'est une porte d'entrée très astucieuse en tout cas. L'utilisation de la cartophilie, c'est-à-dire l'étude et la collection de cartes postales, agit ici comme une véritable machine à voyager dans le temps.
Ouais, c'est exactement l'impression que ça donne.
Et ce que l'auteur parvient à faire, grâce au travail éditorial de Guy Mazard, c'est de nous montrer que l'histoire locale, très ancrée géographiquement à Rodez, elle n'est jamais isolée en fait.
Elle réagit à ce qui se passe ailleurs.
Exactement. Elle subit de plein fouet les ondes de choc des grands bouleversements nationaux. Une école n'est pas qu'un bâtiment fermé, c'est une éponge qui absorbe les crises de son époque.
Et pour bien comprendre cette dynamique, l'article de Pierre Dumont nous invite d'abord à planter le décor.
Le contexte d'il y a 150 ans.
C'est ça, c'est le point de départ officiel de ce jubilé. Si l'on se projette dans les années 1860, le contraste technologique et politique est vertigineux.
Totalement différent à notre quotidien.
Napoléon III est au pouvoir, la photographie n'en est qu'à ses balbutiements, ce qui rend d'ailleurs l'existence même de ces futures cartes postales si précieuses.
C'est un luxe pour l'époque.
Et à ce moment-là, de l'autre côté de la Manche, Big Ben résonne pour la toute première fois.
Ça donne vraiment une idée de l'échelle du temps.
Ouais. Et sur le plan local, à Rodez, le maire Adrien Rosier vient de réaliser un exploit d'ingénierie pour l'époque. Il finalise l'adduction d'eau de Vorse.
Avec une méthode assez ingénieuse, si je me souviens bien.
Le détail amusant, c'est qu'il a réutilisé une partie d'un vieil aqueduc romain pour y parvenir. C'est fou quand on y pense. Le paysage français ne compte pas encore de tour Eiffel, le cinéma n'existe pas.
Ces repères chronologiques sont essentiels pour désorienter nos certitudes modernes.
C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer.
En ancrant le récit dans une époque où l'eau courante est une nouveauté technologique majeure, le texte permet à quiconque écoute de mesurer la densité du temps écoulé.
150 ans, c'est énorme.
À l'échelle de l'urbanisme et de la pédagogie, c'est une éternité. Pourtant, le récit démontre que l'institution porte en elle un héritage bien plus ancien. Elle fait reculer l'horloge de plusieurs siècles pour trouver sa genèse.
On fait effectivement un bond spectaculaire en arrière, bien au-delà de l'ère industrielle. On atterrit carrément en 1626.
Le 17e siècle, oui.
Plus précisément, le 29 octobre 1626. C'est la date à laquelle arrivent les premières sœurs de Notre-Dame.
Et c'est là que ça devient intéressant?
Oui, l'installation prend une tournure inattendue. Ce n'est pas juste une arrivée religieuse classique, c'est une négociation extrêmement âpre avec les pouvoirs locaux.
Ce qui est fascinant ici, c'est la liste des conditions imposées.
Ouais. Le 17 juin de la même année, les consuls de la ville posent des règles vraiment draconiennes pour accepter leur présence. L'interdiction de mendier est formelle.
Ce qui n'était pas si évident pour les ordres religieux à l'époque.
Et plus surprenant encore, elles ont l'obligation absolue de payer la taille. Vous savez, cet impôt direct de l'ancien régime qui était souvent très arbitraire. Elles devaient aussi payer les autres taxes locales.
Donc aucune exemption fiscale?
Aucune. Mais la condition la plus révolutionnaire pour l'époque, c'est la mission qui leur est confiée. Elles doivent instruire les jeunes filles de la ville sans percevoir la moindre rétribution.
C'est la gratuité totale de l'enseignement.
C'est ça.
Ce cahier des charges mérite vraiment qu'on s'y attarde. Imposer des impôts à une communauté religieuse tout en exigeant un service public gratuit, ça montre un pragmatisme étonnant de la part des autorités locales du XVIIe siècle.
Ils ont fait une affaire en or.
Offrir une éducation gratuite aux jeunes filles en 1626, c'est un acte social franchement avant-gardiste. Et c'est sur ce contrat très strict que va se bâtir toute la légitimité de l'institution.
Et on en a des traces visuelles?
Oui, la trace physique de cette implantation, c'est ce que révèlent les premières cartes postales mentionnées dans le document.
Le texte s'appuie justement sur des vues anciennes. Il y a celle titrée « Place de la préfecture » ou encore celle du quartier Saint-Amance.
De très belles archives.
À travers ces images, on observe l'évolution d'une simple demeure. À l'origine, c'était la maison des comtes de Sévérac, située en plein cœur de la cité ruthénoise, juste près de la cathédrale.
Une position centrale, oui.
C'est tout le pouvoir de cette publication imaginée par Guy Mazard. On voit littéralement l'enclos s'étendre, le jardin prendre forme et l'église s'édifier décennie après décennie.
Ça montre une belle prospérité.
La communauté attirait non seulement les enfants de la bourgeoisie locale, mais aussi les nobles demoiselles du Rouergue. Tout indique un ancrage très solide et paisible.
Du moins jusqu'à la Révolution française.
Ah oui, là tout s'effondre.
Jusqu'à ce que la grande bascule vienne briser cette linéarité en 1792. Cet intermède révolutionnaire, ce n'est pas juste un changement de régime, c'est une expropriation totale.
Le choc a dû être terrible.
Le décret de la Convention nationale s'applique sans distinction. Les religieuses subissent le même sort réservé aux clercs de cette époque. 27 d'entre elles sont expulsées sans aucun ménagement.
Et leurs locaux sont complètement transformés.
Oui, leurs murs subissent une série de métamorphoses qui illustrent parfaitement le chaos administratif de la Révolution.
Le couvent devient une caserne militaire.
Puis un collège universitaire. Et l'ironie de l'histoire, qui est d'ailleurs très bien soulignée par l'article, c'est le destin de leur église.
Ça, c'est une anecdote incroyable.
Elle est transformée en salle de spectacle pendant la Révolution et elle finira carrément par abriter une salle de cinéma à l'époque contemporaine.
La désacralisation des lieux est absolue. Mais au-delà des bâtiments, c'est la réaction humaine face à cet effondrement qui capte vraiment l'attention.
Elles n'ont pas abandonné.
Pas du tout. Loin de fuir, les sœurs optent pour une stratégie de dissimulation fascinante. Pour contourner la loi, elles abandonnent leur habit religieux et s'habillent en demoiselles ordinaires.
C'est audacieux.
Elles louent une modeste chambre en ville et reprennent leurs cours clandestinement. Et le plus fou, c'est qu'elles rassemblent un nombre impressionnant d'enfants, malgré les risques énormes.
C'est une véritable leçon de camouflage institutionnel. À cette époque, le risque pour les personnes associées aux anciens ordres religieux était immense.
On parle de prison ou pire, hein ?
Exactement. Ça allait de l'emprisonnement à la déportation, pour les clercs réfractaires, ceux qui refusaient de prêter serment à l'État.
La pression devait être constante.
En choisissant d'enlever l'uniforme pour se fondre dans la population, ces femmes démontrent que le cœur de leur institution n'était ni la pierre du couvent, ni l'habit qu'elles portaient.
Mais bien l'enseignement.
C'est l'acte même d'enseigner. Elles perpétuent ce fameux contrat de 1626 dans la clandestinité absolue.
On pourrait penser qu'après avoir survécu à la Révolution, le plus dur était derrière elles. Mais bon, s'adapter à un bouleversement politique brutal est une chose. Survivre à la froideur de la machinerie bureaucratique du XXe siècle en est une autre.
La fameuse crise de 1904.
Voilà.
Le conseil municipal de Rodez contestait la propriété des lieux depuis 1887. Mais c'est la loi du 4 juillet 1904 qui interdit l'enseignement aux congrégations, qui déclenche une nouvelle onde de choc.
Et là, les conséquences sont immédiates.
Les portes se ferment officiellement. Les chiffres donnent le vertige. 314 élèves, 56 religieuses et plusieurs novices sont mis à la porte et dispersés.
La brutalité de cette loi réside dans son aspect chirurgical et légal. Contrairement au tumulte de la Révolution, il s'agit ici d'une procédure administrative implacable.
Impossible de passer à travers les mailles du filet.
Pour survivre, la communauté se fragmente. Plusieurs enseignantes se sécularisent et tentent de gagner leur vie en donnant des leçons de musique ou de peinture chez des particuliers.
Chacune essaie de s'en sortir comme elle peut. Mais l'instinct de survie de l'institution va générer une parade juridique remarquable. Le fameux système D se met en place, et ce, à travers les lois mêmes de la République.
L'ironie est vraiment savoureuse. Puisque la loi interdit aux religieuses d'enseigner en tant que congrégation, c'est un groupe d'anciennes élèves qui prend les devants.
En utilisant la loi de 1901.
C'est ça. En s'appuyant sur cette toute récente loi sur les associations, elles fondent une association de mères de famille. L'institution Sainte-Geneviève renaît de ses cendres sous un statut totalement laïque et légal.
C'est un coup de maître.
Pour remplacer leurs anciens murs, elles investissent les locaux laissés vacants par le noviciat des frères des écoles chrétiennes. Et c'est d'ailleurs une ancienne novice, Marie Ponce, qui prend la direction de l'établissement.
La mission éducative trouve une nouvelle enveloppe pour continuer d'exister. Cette transition montre une résilience qui s'adapte aux règles de son temps.
Mais cette stabilité ne va pas durer bien longtemps.
Non, cette stabilité précaire va être très vite rattrapée par un événement d'une ampleur mondiale. L'institution se heurte au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914.
Et là, tout change.
On ne parle plus de défis juridiques, mais d'une désorganisation logistique massive dictée par l'urgence absolue de la guerre.
L'urgence transforme littéralement l'école en un véritable camp retranché de la santé publique. Les lieux sont réquisitionnés pour devenir un hôpital militaire.
Du jour au lendemain.
On imagine bien l'infirmerie et les espaces communs bouleversés pour accueillir des blessés revenus du front. Pour les élèves, c'est le chaos logistique. La survie de l'enseignement tient du miracle au quotidien. Et à la hâte. Et les classes primaires sont carrément exilées dans une petite villa avec jardin pour libérer de l'espace.
Ce qui frappe dans le récit de Pierre Dumont, ce sont ces petits détails de la vie quotidienne qui émergent de ce désordre.
Il y a un détail particulièrement marquant, oui.
Cette mention concernant quatre groupes de pensionnaires. Chaque soir, ces jeunes filles devaient quitter l'établissement pour aller dormir en ville.
En plein hiver en plus.
L'image de ces élèves marchant dans les rues, leurs bouillottes sous le bras pour affronter le froid. Elles trouvaient un asile temporaire dans la chapelle prêtée par l'orphelinat Sainte-Anne.
Ça ancre vraiment la grande histoire dans une réalité charnelle et très vulnérable.
Tout à fait.
Et c'est précisément à ce moment du récit que les archives cartophiles prennent une dimension dramatique. Les cartes postales sélectionnées pour illustrer l'article agissent comme un contrepoint silencieux à ce chaos.
Elles racontent une toute autre histoire visuellement.
Oui, il y a cette vue de la cour des grandes, montrant l'architecture sévère et imposante, avant qu'elle ne soit envahie par la logistique militaire.
Et la fameuse salle de cour.
On contemple la salle de dessin, où les élèves apparaissent figés, penchés sur de grandes feuilles blanches dans un ordre parfait.
C'est tellement loin de la réalité de la guerre.
On découvre également le réfectoire, avec ses alignements géométriques de longues tables, ou encore ce cliché titré « un dortoir », exposant des rangées infinies de petits lits blancs encadrés de rideaux immaculés.
Ces images cristallisent une illusion de permanence. L'intérêt de ces photographies d'époque, c'est qu'elles documentent un ordre rigoureux.
Une vraie discipline visuelle.
Une discipline visuelle qui contraste violemment avec la précarité décrite dans le texte. Elles immortalisent une normalité qui, dans les faits, est constamment menacée d'effondrement.
Et l'effondrement n'est jamais très loin.
L'institution survit à la Grande Guerre, elle reprend son souffle, mais l'histoire européenne, dans sa répétition tragique, lui prépare une nouvelle mise à l'épreuve avec le Second Conflit mondial.
On bascule alors sous l'occupation, une période où les réquisitions de vastes bâtiments par l'armée allemande sont malheureusement monnaie courante.
Si l'on relie ça au contexte global, c'est une pratique très fréquente.
Mais l'épisode relaté ici possède un caractère particulièrement oppressant par sa soudaineté. Nous sommes le 21 septembre 1943.
Et les Allemands arrivent.
Les autorités débarquent et exigent l'évacuation totale et immédiate de l'institution. Le délai accordé est de 24 heures.
C'est impensable.
Et le motif ? Loger un contingent de 265 Croates réjoletés qui arrivent de Villefranche.
24 heures pour vider un établissement scolaire de cette taille, c'est une entreprise de démolition logistique. Cette sommation illustre le mépris total des forces d'occupation pour la fonction éducative des lieux.
La scène décrite dans l'article est d'ailleurs saisissante d'urgence. Les sœurs les plus âgées sont physiquement bousculées par l'officier venu s'emparer des clés. Elles doivent fuir précipitamment vers le monastère.
Pendant que les autres tentent de sauver les meubles.
Littéralement. Les plus jeunes s'engagent dans une course contre la montre. Il faut dissimuler le peu de mobilier qui peut l'être, cacher le linge et tenter de sécuriser les provisions de l'hiver avant le pillage redouté.
Une panique totale.
Le contexte est d'autant plus dramatique que la rentrée scolaire approche à grands pas. Il y a 165 pensionnaires attendus. La situation semble condamnée.
Mais l'imprévisibilité de la guerre opère un nouveau virage.
Un virage inattendu.
Aussi inexpliqué que salvateur. 8 jours seulement après cette évacuation brutale, le 29 septembre, les troupes allemandes quittent les lieux.
Aussi brusquement qu'elles les avaient réquisitionnées.
La rentrée est in extremis sauvée. Elle ne subit qu'un report jusqu'au 18 octobre. Contrairement à la longue occupation médicale de la Première Guerre, cet épisode de 1943 s'apparente à une tempête d'une violence inouïe, mais très brève.
Ce soulagement marque d'ailleurs un tournant. L'après-guerre ouvre une nouvelle ère. Les champs de bataille se déplacent en quelque sorte vers les bureaux administratifs.
On passe à des luttes immobilières.
Les défis ne sont plus liés à la survie physique face aux soldats, mais à la pérennité immobilière. Dès les années 50, une tension s'installe.
Avec les frères des écoles chrétiennes.
Voilà. Les frères, qui sont les propriétaires légaux des murs, manifestent l'intention de récupérer leurs locaux. Le bail était arrivé à expiration depuis de nombreuses années.
Les tractations ont dû être complexes.
Très longues. Mais elles aboutissent finalement en 1956. C'est une date charnière, puisque les religieuses parviennent à racheter purement et simplement les bâtiments.
Tis est vraiment l'acte de fondation de leur modernité. Ne plus être locataire ou occupant précaire, ça permet enfin de se projeter sur le long terme.
Sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Fini la menace perpétuelle d'une expulsion, qu'elle vienne d'une loi anticongréganiste ou d'un propriétaire. Fort de cette assise, l'établissement entame de profondes mutations.
Pour s'adapter à l'évolution de la société.
L'article détaille des choix stratégiques majeurs. Par exemple, l'abandon du second cycle pour concentrer les forces sur le primaire et le premier cycle.
Et puis la révolution culturelle des années 80.
L'instauration progressive de la mixité, ce qui fait grimper les effectifs à près de 500 élèves.
Et le point culminant de cette trajectoire d'adaptation survient en 1994. C'est le Grand Rassemblement.
Une alliance inattendue après les tensions immobilières.
Exactement. La compagnie Marie Notre-Dame, gestionnaire de Sainte-Geneviève, et les frères des écoles chrétiennes en charge de Saint-Joseph scellent une union historique.
Ils unissent leurs forces.
Au terme de plusieurs années de travaux d'aménagement et de concertation pédagogique, l'institution Sainte-Geneviève-Saint-Joseph voit le jour à la rentrée de septembre. Deux entités avec des passés complexes choisissent de fusionner pour garantir leur avenir commun.
C'est un bel aboutissement. Et pour conclure l'analyse de ce long cheminement, l'auteur nous ramène judicieusement aux sources visuelles.
Les fameuses cartes postales.
Le récit fait mention des dernières cartes postales de la série. Elles offrent des vues intérieures magnifiques de la chapelle et du grand salon.
Des clichés superbes.
Ces images dévoilent des pièces majestueuses, ornées de lustres délicats, de boiseries, de tableaux classiques et de plantes d'intérieur soigneusement disposées.
Le contraste est total quand on pense à ce qu'on vient de raconter. Lorsqu'on observe le raffinement de ce grand salon figé sur le papier glacé, il dégage une sérénité absolue.
On a du mal à y croire.
Il est presque impossible d'imaginer que ces mêmes murs ont tremblé sous les réquisitions militaires, ont abrité des cours clandestins ou ont vu des religieuses fuir en pleine nuit avec des bouillottes.
C'est la réflexion centrale que l'on peut tirer de ce document si minutieusement mis en page par Guy Mazard.
Ovia des Pierres.
Si l'on prend du recul sur cette accumulation de dates, de lois et de guerres, l'essence même de l'article dépasse largement le simple récit architectural ou la curiosité cartophile.
C'est l'histoire d'une communauté.
C'est une démonstration de l'incroyable malléabilité d'une communauté éducative. L'œuvre de Pierre Dumont démontre que la véritable force de l'institution n'a jamais résidé dans ses briques ou ses statuts légaux.
Qu'elles soient en civil ou en habit.
Qu'il faille enseigner en civil sous la Révolution, s'organiser en association laïque sous la Troisième République ou faire cours à côté d'un hôpital militaire, l'objectif fondamental est toujours resté intact. Cet objectif hérité du lointain contrat de 1626.
C'est vertigineux de constater comment près de 4 siècles de combats, de système D et de dévouement pédagogique peuvent être ainsi encapsulés et révélés grâce à l'étude attentive de quelques cartes postales jaunies par le temps.
Ça donne une toute autre perspective.
On réalise que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les grands traités de paix, mais aussi dans les cours de récréation réaménagés en urgence.
Cette exploration minutieuse des sources soulève d'ailleurs une question importante, une réflexion plus large, qui invite à observer notre environnement immédiat sous un angle différent.
C'est un point de vue fascinant pour clore notre analyse. Quand on arpente les rues d'une vieille ville aujourd'hui, qu'on passe devant des façades administratives cossues ou des portes d'école à l'apparence immuable, on perçoit rarement le tumulte qu'elles renferment.
Tout semble si calme.
Combien de ces bâtiments, aujourd'hui silencieux, ont servi de refuge clandestin à des enseignantes hors la loi ? Combien de ces cours bitumés et de ces réfectoires tranquilles ont été transformés en quelques heures, en casernes ou en hôpitaux improvisés ?
On ne le saura peut-être jamais.
Les cartes postales ont ce talent unique de capturer une fraction de seconde de normalité de façade. Mais derrière le vernis de l'image, la pierre, elle, continue de porter l'empreinte invisible des crises, des expulsions et des renaissances successives.
C'est une incitation puissante à regarder le patrimoine de nos villes non plus comme un décor figé, mais comme un témoin silencieux d'une résistance acharnée.
Exactement. C'est une joie d'avoir pu partager et décortiquer cette mémoire du quotidien à travers ce support si riche.
Merci pour cet échange, c'était passionnant de remonter le temps ensemble.
On se donne rendez-vous très vite pour fouiller de nouvelles sources et mettre en lumière d'autres pans méconnus de notre histoire. À très bientôt pour une nouvelle plongée.